C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Les amis, faites vos jeux, rien ne va plus. Et oui, aujourd'hui, je vous présente Vabank, un jeu de Bruno Feduti et Léo Colovini, édité par Igeri. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Vabank est un terme d'origine française inventé au XVIIIe siècle par les joueurs de Pharaon. C'était un jeu de cartes qui était populaire. Alors cela signifiait « miser tout ce qu'il nous reste ». Vabank est un jeu de bluff et de déduction où il faudra miser sur la bonne table pour remporter la mise. Et plus les manches vont s'enchaîner et plus il y aura d'argent sur les tables. Autant dire qu'il va falloir choisir les bonnes tables. Mais attention, certaines pourraient être piégées. Le but du jeu, vous l'avez compris, est de récupérer un maximum d'argent. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Alors on commence par disposer les tables sur la table. Dit comme ça, ça fait un petit peu bizarre. On va prendre les tuiles table de casino que l'on dispose en formant un cercle. Si vous jouez à 3, vous prenez 7 tables de casino. On rajoute des tables, plus on est de joueurs, c'est logique. Quand vous avez du monde à manger chez vous, si vous n'avez pas assez de place, mamie, elle ne mange pas sur les genoux de papy. Vous rajoutez une table. Eh bien dans Vabank, c'est pareil. Plus il y a de joueurs, plus on rajoute de tables. Alors ensuite, tous les joueurs choisissent une couleur en prenant leur pion et leurs 3 cartes actions qu'ils joueront à chaque manche. La première carte, c'est du bluff. La deuxième, c'est la relance. On va multiplier la somme par 2. Et la troisième, eh bien, c'est le piège. Vous piégez la table et vous récupérez le butin. Et puis, c'est pas tout. Mais on est au casino. Alors on va recevoir des jetons. 4 de 5, 3 de 10, 2 de 20 et 1 de 50 qui correspondent à 5000 jusqu'à 50000 euros. Les sommes peuvent vous effrayer, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas jouer avec votre argent. Les billets sont fournis avec le jeu. Et là, j'entends quelqu'un me dire, mais c'est des vrais. Mais bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Allez, revenons au jeu. Chaque joueur va poser son jeton sur une des tables de casino. Ensuite, chacun posera à tour de rôle un jeton scinde sur une table jusqu'à ce que tous les jetons scindes soient posés. Toujours à tour de rôle, les joueurs vont poser leurs 3 cartes secrètement face cachée sur une table. Il est possible d'en mettre plusieurs sur une table, certaines tables peuvent d'ailleurs rester vides. Voilà, il ne reste plus qu'à choisir la bonne table. Vous pouvez avancer votre pion jusqu'à 4 tables, n'allez pas forcément sur les tables qui ont beaucoup de jetons, car c'est possible qu'elles soient piégées. Exemple, j'ai mis mon jeton sur une table de casino où il y a 2 jetons 5. Ça me fait donc 10 000, ouais, normalement, mais comme j'ai mis ma carte relance, oh là 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 là, c'est le pactole, j'ai empoché 20 000, car ça va multiplier donc par 2. Et le problème, c'est que Maël a mis sa carte piège sur cette table, et du coup, c'est lui qui empochera les 20 000. Vous avez compris le principe de Vabank. On regarde toutes les tables où les jetons sont présents, et chacun récupère son pactole ou pas. Ensuite, on passe aux jetons 10, puis 20 et 50, mais à chaque fois, on laisse les jetons présents. Autant dire qu'à la fin, ce n'est pas 20 000 que vous pouvez récupérer sur une table, mais plutôt 200 000. Alors si vous êtes fait avoir lors de la première manche, croyez-moi, rien n'est perdu. Surtout, c'est toujours celui qui a le plus d'argent qui commence à placer les jetons, les cartes et qui se déplace. À la fin, c'est celui qui a le plus d'argent qui remporte la partie. C'est du bluff et de la déduction comme on aime. Vabank, on en parle d'ici 3 minutes avec Raphaël.
C'est ludique. L'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, c'est Raphaël Bernardi, le gérant fondateur de la maison d'édition Igeri. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors Raphaël, déjà, est-ce que tu peux nous dire quand tu es arrivé dans le monde du jeu et comment Igeri est né?
Alors, ça va faire à peu près 7 ans que Igeri est né.
Ah, c'est Igeri, on dit.
Ah oui, mais bon, c'est parce que le nom est d'origine japonaise, mais peu importe le nom, le plus important, ça reste quand même les jeux de la maison d'édition.
Ouais.
Donc après, on en rigole, justement. donc, c'était il y a à peu près 7 ans de cela, en mars 2015, si je dis pas de bêtises.
D'accord.
Et comment je suis venu? En fait, j'ai toujours eu la passion du jeu depuis des années. J'ai failli travailler à l'époque, c'était chez Philosophia quand ils ouvraient leur premier bureau en Europe.
D'accord.
Ceux qui se souviennent. Et donc du coup, ça m'avait beaucoup plu le fait de pouvoir y travailler. Je n'ai pas malheureusement eu le poste, mais je faisais partie des derniers candidats sélectionnés pour avoir ce poste-là. Et je me suis dit, c'est dommage quand même, parce que j'aurais bien aimé avoir cette expérience ludique.
Ouais.
Et à chaque fois, j'avais toujours cette envie en moi qui me disait, mais pourquoi ces jeux-là n'arrivent jamais sur le marché francophone? Pourquoi ce jeu-là, il n'est pas édité? Et je me suis dit, au lieu de travailler pour quelqu'un, chez quelqu'un, pour une société, je me suis dit, je vais créer ma propre maison d'édition. Et tous les jeux que j'ai repérés, justement, que j'aime, qui me plaisent,
ouais.
Je me suis dit, on va les faire pour proposer au marché francophone, justement. Si personne d'autre le fait, autant le faire soi-même.
Donc, c'est comme ça qu'est né Igeri. Alors, Igeri, donc, tu l'as dit, c'est un terme japonais. Ça signifie quoi?
ça signifie objection parce que je savais que la plupart de nos jeux allaient être très très interactifs et que du coup ça allait malheureusement de temps en temps couiner entre les personnes qui allaient dire non, pas moi, s'il te plaît, non. Bah, du coup, voilà.
C'est quoi l'ADN de tes jeux? C'est plus de la stratégie?
Alors, on va dire qu'il y a deux types d'ADN. La première partie, ce sont les jeux donc dits interactifs où il faut minimum 3 joueurs et plus. Et où c'est le genre de jeu où on ne peut pas jouer dans son coin. C'est l'inverse des jeux de gestion, par exemple, ouais. Intrigue, qui est vraiment un jeu de négociation et de coups fourrés, pour rester poli, bien sûr, à la radio. Mais c'est le genre de jeu où on ne peut pas jouer à deux. Pareil pour Templari, qui est un petit jeu d'enchères de collection. Il y a un certain type de mécanique à l'intérieur du jeu qui fait qu'à deux, ce n'est pas possible. Il faut être minimum 3. Pour avoir cette interaction que le jeu nécessite.
Et d'accord.
Notamment la Vabank, le dernier qui est sorti.
On va en parler.
C'est justement un jeu qui nécessite d'être 3 pour ce double guessing, ces pièges interposés. Et la deuxième partie de l'ADN, c'est les jeux à 2, un peu abstraits, parfois pas nécessairement, mais à 2 où il y a cet affrontement direct avec l'autre avec qui on joue. C'est-à-dire que c'est pas justement non plus des jeux de gestion où on joue chacun dans son coin, c'est un jeu donc d'interaction, mais là cette fois-ci à deux, donc c'est plus des jeux d'affrontement, de duel. Mmh.
C'est le cas donc, par exemple de Verona Twist qui vient de
exactement
sortir.
Exactement, que vous avez présenté, où là bah, forcément l'un incarne la nourrice, l'autre Capulet, bah, il y a cet affrontement de je vais essayer de te bloquer, je vais essayer de t'empêcher de faire telle combinaison, ou par exemple Onitama qui est aussi dans les jeux à deux, qui est une revisite des échecs plus modernes avec ce passement de cartes. Si je prends telle carte pour me déplacer, eh bien je te laisse tel mouvement au prochain tour, etc. Bref, voilà, c'est soit du jeu multijoueur 3 et plus, très très interactif, soit c'est un jeu de duel, d'affrontement pour deux personnes.
Jusqu'à maintenant, quel jeu a eu le plus de succès?
Alors, il y en a plusieurs. Alors, Intrigue déjà, parce que il avait une c'est une réédition, donc il avait une très grande notoriété dans le passé, et ouais, quand on l'a réédité en tant que premier jeu, bah forcément, ça nous a donné de la visibilité sur la scène ludique assez rapidement, parce qu'on n'est pas sorti avec un jeu tout nouveau d'un nouvel auteur, où personne ne connaîtrait. Justement, on a dit, bah, on a réédité Intrigue, et donc forcément, pour les boutiques, ah ouais, génial, etc. Ouais. Donc ça, c'est très bien vendu, et c'est parce que c'est du coup le plus vieux jeu d'Igari. Mais celui qui continue de cartonner toujours malgré, ça va faire 4 ans, bientôt 5 ans qu'il est sorti, c'est Onitama, ce jeu à deux joueurs qui revisite justement les échecs, qui marche très 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 très, mais vraiment très bien en boutique, malgré le fait qu'on pourrait croire que les jeux abstraits n'attirent pas le public, alors que c'est faux justement, tous nos jeux sont de type abstrait pour l'instant à deux joueurs, et en fait ils fonctionnent tous très bien.
Est-ce que c'est compliqué d'être un petit éditeur?
Oui et non. Compliqué financièrement, non, puisque du coup, ça, il n'y a pas de souci. Quand les jeux sont bons, quand les boutiques connaissent les jeux, ouais, quand le travail est fait, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est plus, j'ai envie de dire, la visibilité, un peu la hype, les buzz sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça reste quand même le public qui crée la tendance. Si le public ne veut pas ce type de jeu, eh bien, ce type de jeu ne marchera pas. Et si le public a décidé d'aimer tel jeu, et ben ils aiment tel jeu. Et donc, du coup, pour nous, ils aiment nos jeux, mais il y a une différence entre les ventes en boutique et la hype sur Internet. Donc, il faut faire très attention entre ce qu'on lit et ce qu'il y a réellement. Et nous, c'est que du coup, c'est pas difficile, mais c'est qu'il n'y a pas cet effet, peut-être un peu de buzz, de hype, alors qu'en boutique, le jeu se vend très bien.
Comment tu choisis, toi, un jeu? C'est un coup de cœur avant tout?
Oui, oui, c'est exactement ça. Pour les rééditions et les localisations, c'est vraiment un coup de cœur et il faut que ça s'inscrive dans la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il faut vérifier, voilà, est-ce que les règles sont simples d'accès? Il n'y a pas 10 000 pages à apprendre. Est-ce que la partie est rapide à jouer, moins d'une heure en général? Est-ce qu'il y a de l'interaction? On cherche, voilà, à ce que chaque jeu respecte au maximum tous ses points de détail. C'est comme ça. Donc, ce qui fait que faut jouer. Plus on joue de jeu, plus on risque de trouver la perle et plus on risque justement de pouvoir agrandir le catalogue de telle manière.
Alors, on va parler maintenant, Raphaël, de Vabank, le jeu que je viens de présenter. Alors, Vabank est un jeu de 2001. Comment ça se fait qu'il ne sorte en France que 10 ans après?
Eh bien, alors ça, il faut demander justement un peu aux autres éditeurs et aux auteurs, parce que moi, je l'ai découvert non pas en 2001, mais dans une version un peu plus récente, 2015, je crois, 2016, enfin bref, vers ces eaux-là.
D'accord.
Qui était une version japonaise. Et donc, du coup, nous, on était intéressés pour faire cette version-là.
Bien sûr.
Et malheureusement, elle n'a pas pu se faire. Donc, du coup, bah, j'ai contacté directement les auteurs et je leur ai demandé s'ils étaient OK pour refaire une troisième version, une nouvelle version avec nous, avec un style encore plus poussé dans le casino pour faire moins jeu de société, mais vraiment jeu d'argent.
Ouais, on a vraiment l'impression d'être au casino hein, quand on joue.
Ah bah justement, ouais. On a travaillé, on a mis quasiment 2 ans à travailler dessus justement pour avoir ce rendu que tout est dans les détails en fait. C'est-à-dire que quand on joue à un jeu de société, bah on joue à des mécanismes bien sûr. On joue avec du matériel et des illustrations, mais derrière, il y a tout un processus de réflexion qui a été fait de comment faire pour que vous n'ayez pas l'impression de jouer à un jeu de société, mais d'être à un casino. Et donc du coup, bah, les jetons, comment faut les faire, quelle dimension, quelle taille, les pions, qu'est-ce qui fait penser au casino comme symbole, au lieu d'avoir juste des pions classiques, des pions en bois. Et donc tous ces petits détails faisaient que bah, à chaque fois qu'on refaisait un élément, et du coup, le jeu existait déjà, il fallait que ça fasse penser au casino. Et donc, du coup, ça a mis du temps. Mais alors, pourquoi il n'est jamais sorti avant? Et bien, ça, c'est la bonne question que même moi, je ne peux pas y répondre.
et alors, on parle de casino et tout ça, mais on n'a pas les jetons poker. Pourquoi?
Parce que ça coûte extrêmement cher à produire. C'est-à-dire que à l'intérieur, ce sont des punchboards classiques, traditionnels, bien qu'ils soient en double épaisseur. Donc,
ouais, c'est bien épais.
Qualité. Ouais, voilà, c'est-à-dire que c'est plus épais. En gros, c'est 2 fois l'épaisseur d'un jeton habituel. On a gardé la dimension d'un jeton de poker. Mais le jeton de poker, on avait voulu le faire. Malheureusement, il y a une adéquation entre le type de jeu et le prix que le public est prêt à mettre pour ce type de jeu. C'est-à-dire que pour certains types de jeux, quand il y a de la figurine, c'est tout à fait possible, ça. Mais pour un jeu, on va dire, je vais pas dire party game parce que ce n'est pas un party game, mais plus léger, c'est trop cher de mettre un certain prix, et le jeton de poker, vu que c'est de l'argile avec un poids en métal à l'intérieur, ça coûte extrêmement cher à produire. Ça aurait rendu le jeu à minimum 40€ en boutique, et c'est pas du tout le prix adapté pour ce type de jeu en boutique.
Ouais. Et puis du coup, bah, y aurait eu beaucoup de jetons, parce que c'est vrai qu'il y a certains éditeurs qui utilisent ce jeton de poker, mais il n'y en a pas autant. Là, on est vraiment sur un jeu de casino, donc il y en aurait énormément dans la boîte, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous font la comparaison avec Splendor, qui eux ont réussi à mettre les jetons de poker, etc. Juste à titre de différence, dans Vabank, il y en a 2 fois plus de jetons. Il y en a 60 au lieu de 30, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui fait que bah, c'est 2 fois plus de production, et bien sûr, Yarin n'est pas la même puissance que les Space Cowboys, donc on peut pas se permettre de faire les mêmes tirages dès le départ. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé.
Justement, c'est un tirage de combien d'exemplaires à chaque fois?
On en a fait 2000 pour la France et on en a imprimé également 1000 en même temps pour la Corée du Sud, avec Asmodée Corée.
D'accord.
C'est en partie grâce à eux qu'on a pu faire le jeu et de créer tous ces petits éléments, tous ces petits pions en bois qui coûtent bah, justement, pareil, un peu plus cher à créer que des pions traditionnels, mais c'est en augmentant le tirage qu'on peut réduire les coûts, et donc on peut créer bah, ces petits composants qui n'ont l'air de rien, mais qui rajoutent un petit coût supplémentaire à chaque fois au jeu final. Donc pour éviter que le jeu coûte trop cher bah, pour le public, on essaie quand même de réduire les coûts pour nous et pour vous aussi. Hein. Au final, on ne veut pas des jeux chers. La plupart des jeux chez Igari, c'est 20, allez, peut-être 25 pour certains, et 30 pour Onitama, et donc Vabank maintenant. Mais donc voilà, on essaie vraiment de faire des jeux le plus accessible possible, mais quand on veut de la qualité, bah, ça rajoute ce petit truc sur la note finale.
Alors aujourd'hui, on a 3000 exemplaires, mais on a des super critiques sur Vabank. Est-ce que le Seal of Excellence de Dice Tower, notamment, est-ce que ça va changer la vie d'un jeu comme Vabank?
Bah oui, parce que quelques jours après, à peine, de nombreux éditeurs nous ont contactés, éditeurs et distributeurs internationaux, pour nous demander justement, on a découvert sur votre site. Oui, sur notre site, bien sûr. Hein. et donc, ils nous contactent tout de suite pour faire le jeu dans telle langue. Et quand certains pays sont assez importants, notamment les États-Unis, c'est pas 3000, ils nous demandent direct combien c'est pour 7 ou 10 000 boîtes.
D'accord. Voyez,
directement, c'est pas ça, alors que le jeu, pour certains, je les connaissais déjà, ces éditeurs-là, parce que je leur avais envoyé une boîte, je m'entends très bien, etc. Mais pour d'autres, je les découvre totalement. C'est juste parce que justement, il y a une visibilité internationale de ce jeu-là grâce à Tom Vassell et The Dice Tower que de nombreuses personnes sont venues nous voir juste après. Donc là, on est en train de récolter les réponses de toutes les personnes pour essayer de faire le plus gros tirage possible à l'international pour nos partenaires.
Justement, il y a certains joueurs qui ont eu la chance d'aller à Essen, qui ont découvert Vabank. C'était quoi leur ressenti ?
Oh bah, beaucoup se sont amusés, et même les plus jeunes. Je ne pensais pas que les plus jeunes... Bon, bien sûr, les jeux d'argent, c'est pas adapté aux plus jeunes, bien sûr, les casinos sont interdits aux mineurs. Mais ce côté bluff, piéger leurs parents, eh ben, ils ont quand même apprécié et ils en rigolaient. C'est-à-dire qu'au contraire, ils étaient contents de pouvoir réussir à piéger un membre de leur famille et d'en rigoler.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que la famille, les amis, tout ça s'amusait, bien sûr. On a eu de très bons retours sur cela et ça paraît évident pour tout le monde, même si, bien sûr, il y a toujours forcément des personnes qui n'ont pas apprécié plus que ça, puisque tous les goûts sont dans la nature, ça c'est logique.
Oui, puis il faut aimer le bluff, de toute façon.
Ouais, mais je m'attendais pas à ce que autant de jeunes, très jeunes, des enfants, apprécient le jeu.
Combien de sorties tu prévois, toi, par an, en général ?
Alors là, il n'y a pas de chiffre.
T'as pas de
précis.
Chiffre.
C'est vraiment en fonction des projets qui sont faisables, réalisables, le temps de les rééditer ou de les localiser. Mais aussi, il ne faut pas surcharger le planning. Je me limite, par exemple, à 3 jeux grand maximum, si je peux.
D'accord.
Il y a des années où c'était possible, mais j'évite au maximum de ces sorties-là parce que je ne veux pas surcharger déjà le milieu ludique qui est déjà assez surchargé, et je veux surtout que chaque jeu ait le temps de prendre la lumière dans les boutiques dès sa sortie. Je veux pas qu'en gros il y ait un jeu qui est remplacé par un autre, qui est remplacé par un autre, et qu'au final, bah, y a un effet de buzz le jour de sa sortie, le mois de sa sortie, mais que 2 mois après, personne n'entend plus parler de ce jeu parce qu'il est plus mis en avant, etc. Je préfère justement... Je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de nos jeux, c'est qu'ils sont mis en avant très longtemps, et c'est pour cela qu'ils durent très longtemps en boutique et pas simplement qu'un one-shot, qu'un seul print.
Là, on a 2 jeux qui sortent finalement en même temps, Vabank et ouais. Verona Twist. C'est dû au transport, je suppose.
Exactement. Malheureusement, le Covid, il y a eu des effets, ce qu'on appelle à court terme, que tout le monde a vu avec les confinements, etc. Mais il y a eu aussi ce qu'on appelle les effets à long terme, que malheureusement, le public ne voit pas, mais quand on prépare un jeu... c'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts que les illustrations se fassent, que le texte est traduit, qu'il est mis en page, que les fichiers sont envoyés à l'impression. Donc en fait, ça c'était fait déjà depuis très très longtemps, mais bah, les temps de production ont été rallongés, peu importe où il est produit, les transports ont augmenté, donc ce qui fait que ça a bloqué, et donc c'est au final sorti en même temps sans le vouloir. Qui n'est pas plus mal pour les fêtes de Noël.
Bah oui, heureusement que c'est sorti avant Noël.
Oui, ça c'est bien. Mais il est vrai que j'aurais préféré qu'ils sortent un peu plus en décalé.
Ouais.
Pour ces raisons que j'expliquais justement il y a 2 minutes. Mais voilà, c'est les effets que bah, on ne voit pas quand on est justement dans le côté public. Quand on ne voit pas ces effets, on voit que notre boutique préférée de jeux est fermée. On voit qu'il y a des retards de production, mais on ne voit pas du côté de l'édition de « Ah, ça va prendre autant de temps. Ah, bah oui, parce qu'il manque de matériaux pour tout le monde. » Oui. Ah bah,
ouais. Vabank donc est sorti le 5 novembre, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, il est sorti donc vendredi dernier.
Vendredi,
exactement.
Vendredi dernier. T'as pas de retour déjà forcément, parce que ça serait...
Ah bah, les premières boutiques me disent « Ah bah content qu'il ressorte enfin
ouais. ».
Parce que forcément c'est une réédition, c'est comme intrigue. Les vieux de la vieille le connaissent déjà et ça fait plaisir de jouer à ce jeu bah, qui est quand même un très grand classique de Bruno Feduti et de Léo Colovini. Mais par contre, j'ai pas encore les chiffres d'implantation, ce genre de choses. Mais au vu des premiers retours sur Internet, des boutiques, ça fait déjà plaisir juste en un week-end d'avoir eu ces retours-là.
Des futurs projets, des petites choses qui arrivent bon, maintenant 2022, je pense.
Oui, alors les projets, en ce qui concerne les projets, il y a en début d'année, j'espère pour le Festival de Cannes en fin février 2022,
ouais.
Il y a Not Not, c'est l'adaptation du jeu vidéo du même nom. C'est un jeu qui est disponible sur smartphone, iOS, Android et sur Switch, PlayStation 4, si
d'accord.
Je ne dis pas bêtise. C'est un jeu de rapidité, de dextérité, que j'ai plutôt de rapidité, pas de dextérité, je dis n'importe quoi, qui... J'ai eu un coup de cœur pour le jeu vidéo et je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas en jeu de société? Pourquoi il n'y a pas un mode multijoueur de cela? J'ai contacté l'éditeur original qui est français, situé à Montpellier, qui s'appelle Altshift. Ils ont fait, bah, d'accord, très bien. Et donc, du coup, on a supervisé à deux, Altshift et Igari, le développement en jeu de société de ce jeu vidéo. Donc, si vous voulez le découvrir, jouez au jeu vidéo et vous allez comprendre tout de suite ce que ça pourrait être le jeu de société. Tellement c'est très simple en concept. Et normalement, un peu plus tard, il y aura la troisième extension de Nitama, justement, qui devrait arriver.
Très bien. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler. On se verra certainement du côté de Cannes.
Avec grand plaisir.
À bientôt. Merci beaucoup, Raphaël.
À ciao.
Au revoir.
Au revoir.